Cela aurait pu être le cantique de Jonas, ce célèbre prophète de la Bible que nous étudions en ce moment, qui a été retiré des grandes eaux grâce au poisson qu'il a avalé et puis qu'il a vomi sur terre. On compatit un peu avec le poisson et son indigestion, parce qu'effectivement ce prophète Jonas a encore quelques attitudes indigestes et dégoûtante, en tout cas, qu'on pourrait retrouver même dans nos propres cœurs. Mais Dieu, maintenant, va lui donner une deuxième chance pour rectifier sa désobéissance, son attitude, et répondre à son appel. Donc, voici la suite de l'histoire en Jonas chapitre 3. Si vous voulez chercher le livre de Jonas, au milieu des petits prophètes, nous étudions ce matin le chapitre 3. Je vous en fais la lecture, Jonas, chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, il criait et disait « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne paissent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qui revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Le livre Jonas est un petit livre, classé parmi les petits prophètes, mais dans ce petit livre, tout est grand. C'est même un mot en hébreu, le mot en hébreu revient souvent, et l'auteur fait un jeu de mots, en quelque sorte, avec ce mot grand. Il y a eu tout au départ, une grande tempête qui a attrapé Jonas. Les marins ont connu une grande frayeur. Cette grande frayeur, plus tard, s'est manifestée, s'est transformée en grande crainte, en grande foi envers l'Éternel. Et puis, il y avait ce grand poisson que tout le monde connaît, un grand poisson. Chapitre 2, Jonas lui-même fait une grande prière, ce qui occupe un quart du livre, grande prière. Et dans ce troisième chapitre, on trouve pas mal de choses en grand. À Paris, vous savez, sur la place du Tertre, près de Montmartre, il y a des artistes qui veulent bien dessiner votre portrait en caricature. Une caricature, c'est qu'on va exagérer, agrandir certains traits. D'autres traits sont dessinés tout petits. Alors, si vous avez un gros nez ou quelques oreilles qui dépassent, là, la caricature va les agrandir. Bon, souvent, les caricatures ne sont pas flatteurs, car ce sont nos défauts qui sont exagérés. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il ne faut pas caricaturer. Mais parfois, le style est utile, rigolo, et certains artistes, certains peintres, certains écrivains vont justement caricaturer, ils vont agrandir certains traits pour faire passer un message. D'ailleurs, pour attirer les clients à Montmartre, ces artistes affichent souvent leur propre portrait en caricature. Ce n'est pas fait avec méchanceté ou moquerie, c'est pour montrer leur talent d'artiste. Eh bien, le livre de Jonas est une caricature de Jonas, mais aussi du peuple de Dieu, de nous tous, de vous et moi. En voyant certains traits accentués, mis en grand, certains traits disproportionnés, on pourrait dire, eh ben, le message peut-être va passer encore mieux. Et c'est pour ça que cet auteur joue, je pense, avec les choses grandes et les choses petites, comme nous allons trouver dans ce chapitre. Alors nous allons parcourir chapitre, il y a la grande ville. Après, il y a le petit prêche, le grand miracle et enfin la grande question que nous allons voir ce matin. Commençons avec la grande ville. Quatre fois dans ce livre, Ninive est appelée la grande ville. Le verset 3 dans notre texte, chapitre 3, précise que Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. 3 jours de marche, est-ce que c'est 3 jours de marche pour traverser la ville? 3 jours de marche pour faire la tour? Certains ont trouvé que ce détail présente quelques difficultés historiques par rapport à l'archéologie. Et Ninive, c'est vrai que 3 jours de marche pour traverser une ville, c'est vraiment énorme. À Paris, de la porte Maillot, où notre famille habitait, jusqu'à la porte de Vincennes, vous mettez ça sur Google Maps piéton et c'est 2h30 de marche. C'est pas 3 jours. Hein. De Orly à Roissy, vous connaissez les aéroports de Paris, c'est 11h de marche. Et il y a plusieurs ici, entre elles, fera ça encore plus rapidement. Donc, on n'a pas le Strava de Jonas pour savoir exactement de quoi il s'agit. Mais on peut trouver des explications. Ce n'est pas parce qu'il y a juste ça qu'on va éliminer tout l'aspect historique de Jonas. Cela pourrait évoquer l'ère urbaine. On parle de Toulouse métropole. Et effectivement, le métropole, faire tout le tour de métropole, ça prendrait du temps. Ou bien le temps de visiter chaque quartier. On a pas mal de quartiers, aller au cœur des quartiers. À marcher, presser un message, ça, on imagine bien, ça prend plusieurs jours. D'autres ont suggéré, c'est le temps d'une visite protocolaire pour un peu traverser la ville. Il faut rencontrer, à l'époque, les autorités, c'était peut-être moins simple qu'aujourd'hui de passer par les portes de la ville et avoir autorisation, rencontrer les grands et puis le roi. En tout cas, le détail souligne la grandeur impressionnante de la ville de Ninive. Et c'est vrai que historiquement, à cette époque de Jonas, elle est en ascendance pour devenir la plus grande ville du monde. Même la première grande ville capitale d'un empire du monde. Et vous savez que la grandeur d'une ville ne se mesure pas juste en termes de superficie. D'ailleurs, la plus grande ville au monde est en Groenland. La ville, à elle seule, fait la taille de toute la France. Mais il n'y a que 20 000 habitants. Donc, il y a d'autres manières aussi de mesurer la grandeur d'une ville, sa population. Et on apprend plus tard que Ninive, il y a 120 000 hommes, en tout cas, à Ninive. Mais ce qui est intéressant dans ce verset 3, or, Ninive était une très grande ville. Littéralement, le mot « très », le « très », c'est « Elohim ». Donc, c'était une grande ville devant Dieu, certains traduisent, ou bien, j'aime bien cette traduction, une ville divinement grande. Une très grande ville, une ville divinement grande. C'est vrai que Ninive sera la première ville, comme on disait, dans l'histoire, à être vraiment une capitale d'un empire qui domine le monde. Ninive sera succédée par les villes comme Babel, et ensuite Athènes, et puis Rome. Là, c'est des villes, on va dire, divinement grandes, dans le sens déjà que ces villes, ces grandes villes, on va commencer à trouver une concentration de personnes, d'économie, d'art et de culture, de production. Ça devient intéressant pour voir la civilisation avancer dans le monde. Mais plus ces villes grandissent, plus elles deviennent divinement grandes. C'est-à-dire, de plus en plus, elles se prennent pour Dieu. Un peu à l'esprit de Ninive et Babel. On a fait déjà connaissance avec Ninive et cette ville sœur, Babel, lorsqu'ils ont voulu construire le tour de Babel. On va construire une ville, on va se bâtir un nom pour atteindre presque la place de Dieu. Ninive, ça c'est une description, un archéologue artiste a fait le dessin de Ninive, donc c'est magnifique. On commence à voir vraiment des très belles constructions, ces grandes villes d'art et de culture. Mais vous savez que, comme cela est encore le cas aujourd'hui, les grandes villes, lorsqu'elles deviennent divinement grandes, lorsqu'elles veulent prendre la place de Dieu et qu'elles mettent en place plein d'idolâtrie, eh bien ces grandes villes deviennent aussi des grandes villes de rébellion, de désobéissance, de violence, d'idolâtrie, de perversion. Et c'est ce que Jonas doit dénoncer à partir du premier chapitre. On disait, sa mission, c'est Dieu remarque cette ville de Ninive, parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc une grande ville avec de grandes belles constructions, mais une grande méchanceté. Et vous savez, souvent, quand on voit les choses, les merveilles, derrière, des fois, on veut savoir d'où vient cette richesse. Et bien souvent, dans les grandes villes, c'est grâce à l'esclavage, c'est grâce à l'exploitation, c'est grâce à un trafic, c'est grâce à une perversion idolâtre. Ninive elle-même est devenue très connue, très célèbre pour sa brutalité. Donc derrière cette beauté, il y avait une brutalité dans la manière qu'elle dominait les pays autour. Un exemple, lors de la répression d'une révolte, le roi assyrien fait écorcher tous les chefs de la révolte et il va tapisser les murs de son palais avec leur peau. Donc voilà, ça a l'air beau, mais à l'intérieur, quand c'est tapissé de peau humaine écorchée, on commence à parler, oui, la grande ville, mais une grande méchanceté. Et Jonas est envoyé là pour prêcher, pas pour visiter les musées et les écouter, mais pour dénoncer cette méchanceté. Mais pour lui, Ninive, effectivement, représente le siège du pire ennemi d'Israël. C'est le royaume assyrien qui va finir même par écraser le pays, le royaume, le peuple de Jonas, le royaume du Nord. Mais c'est là qu'il est envoyé pour les appeler à changer, à renoncer à leur méchanceté, à leur violence, à se repentir, à s'échapper du jugement de Dieu. Tout ça nous interpelle, cette grande ville. Si Dieu prend à cœur une ville si grande, si impériale, si païenne, si méchante comme Ninive, certainement il prend à cœur une ville comme Toulouse. Si vous habitez Toulouse et sa métropole, eh bien, sachez que Dieu vous a placé là, Dieu vous a envoyé là, un peu comme Jonas. Certes, il y a des grands avantages de la grande ville. La plupart d'entre nous sommes là à cause de ce lieu de travail, un lieu d'économie. Il y a un gain de l'économie, il y a l'art, il y a les festivals, il y a la musique. Ce sont des belles choses, des choses qu'on peut célébrer de la culture. Mais vous savez aussi qu'il y a des grands maux, des grandes violences. Dans les grandes villes de France, il ne faut pas chercher loin pour trouver toutes sortes de violences, de perversions sexuelles, de trafic de personnes, des magouilles en milieu professionnel. J'essaie d'être un peu fidèle à ma ville et lire mes infos sur la Dépêche du Midi. Mais la Dépêche du Midi, des fois, ils se délectent à raconter tous les histoires sordides du moment. À la une, telle... Voilà les nouvelles de encore aujourd'hui. C'est difficile à dire. On a évolué tant et il n'y a plus de cette violence, plus de cette méchanceté. Non, bien sûr, c'est pas limité à la grande ville. On peut trouver des violences, des péchés, de la méchanceté loin de la foule déchaînée. Mais les grandes villes, en cette manière, des fois, de les concentrer, même de les manifester avec fierté. De célébrer les perversions et la méchanceté. Voilà la grande ville. Et voilà où vous habitez. Et je sais que vous n'avez pas reçu exactement la même mission que celle de Jonas. On va en parler de sa prédication. Mais Dieu vous a envoyé à Toulouse, c'est sûr, si vous êtes là. Dieu vous a placé là pour être lumière, pour être un messager et de son amour et de son jugement. Quelle attitude avons-nous envers notre ville, envers notre grande ville de Toulouse? Maintenant, à côté de cette grande ville, presque démesurée dans la manière que c'est décrit ici, nous trouvons la prédication de Jonas, que j'appelle ce matin le petit prêche. Jonas, Dieu lui donne une deuxième chance et cette fois-ci, au lieu de fuir, il semble répondre. Donc il va à Ninive, selon la parole de l'Éternel, jusque-là tout va bien. Il fit d'abord dans la ville une journée de marche, il criait disant, Encore 40 jours et Ninive est détruite. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en hébreu, c'est juste quatre mots. 40 jours, Ninive détruite. 40 jours, Ninive détruite. Pour ceux qui trouvent que les prédicateurs ont tendance à s'éterniser, à endormir les gens, vous aurez aimé Jonas. Dans sa brèveté, peut-être pas dans son message. Mais tout cela interpelle pour quelqu'un qui est si loquace lorsque c'est sa vie en danger. Pour quelqu'un qui sait faire de magnifiques prières, appuyées sur les psaumes et une richesse biblique, cette prédication est caricaturale dans sa petitesse, dans sa brèveté. 40 jours, Ninive détruite. 40 jours, Ninive détruite. Aucune mention de Dieu, de l'Éternel, de Yahweh, son Dieu. Aucune mention de la grâce, aucun appel à la repentance, aucune mention de son propre vécu de délivrance. Il aurait pu raconter son témoignage, lui qui a vécu une sorte de résurrection des fonds de l'abîme. C'est comme si, de nos jours, quelqu'un se promenait à la ville avec un pancarte ou en disant « Bientôt, vous allez tous en enfer ». Théologiquement, c'est juste. Mais c'est limite comme prédication, c'est un peu réducteur. En tout cas, cette petite prédication nous étonne pour une si grande ville et lorsque nous allons voir la réponse qui suit. Mais ça donne presque l'impression que Jonas assure un service minimum. Bon. A priori, il prêche fidèlement le message. C'est vrai qu'il y a un message. Dieu avait dit « Lève-toi, va à Ninive ». Crie contre elle, sa méchanceté est grande et montée jusqu'à moi. Donc, il crie contre elle, c'est sûr. Mais on se demande en quel but, quelle motivation, quelle attitude. Est-ce qu'il veut vraiment qu'il soit délivré? Ou est-ce qu'il trouve un espèce de malin plaisir à annoncer le châtiment divin sur ses mécréants? Bon débarras, 40 jours, Ninive détruite. Ce qui n'empêche pas, je pense, que Jonas soit un grand orateur, très doué. Il a dû, même ces quatre mots, il les a dû bien les dire. En tout cas, il a un don de prophète et on l'a retrouvé déjà dans le livre des rois. C'est un prophète de l'Éternel. Donc un prophète reçoit un don, un appel, une capacité de parler de la part de l'Éternel. La Bible fait souvent la distinction, d'ailleurs, entre nos dons spirituels, peut-être une prouesse d'orateur ou de musicien ou de leader, et des fois notre maturité spirituelle, nos motivations spirituelles. Et ça, on trouve ça un peu partout, d'ailleurs. Un étudiant brillant avec une attitude désinvolte qui s'en fiche un peu, il peut obtenir une meilleure note à l'examen qu'un élève qui se donne à fond, qui prie, qui bosse bien, mais qui est tout simplement moins fort dans les études, naturellement parlant. Mais Dieu regarde les deux attitudes et il préfère celui qui agit avec foi et se donne avec tout son cœur, avec motivation, peut-être qu'il réussit moins bien parce qu'il est moins doué naturellement, que celui qui compte juste sur ses dons. En tout cas, ça arrive que même les prédicateurs prêchent avec de mauvaises intentions, tout en étant parfois très doués. Dans le Nouveau Testament, on trouve l'apôtre Paul qui dit, lui devait gérer la présence des gens dans son ministère, dans son entourage. Les gens qui prêchaient Christ, même qui prêchaient Christ fidèlement, mais il dit dans des intentions impures pour l'embêter lui. Donc, il voulait un peu le concurrencer, il le jalousait. Donc il prêchait Christ, pas tant pour voir des gens se convertir, pas par amour pour les gens, mais par jalousie ou par méchanceté envers Paul. Et pourtant, le message était juste, les gens se convertissaient. Il faut le faire, mais Paul dit, bon, je me réjouis de ça. Jonas, déjà, on a quelques éléments ici que peut-être il n'est pas encore entièrement en phase avec le cœur de Dieu. Il est encore un peu indigeste, dégoûtant dans sa manière d'agir. Car ça va prendre des proportions un peu grandes dans le chapitre suivant, mais son petit prêche, déjà, nous étonne. Mais ensuite, il y a ce grand miracle. Ce livre est rempli de miracles, on l'a dit. La grande tempête qui est envoyée par Dieu lui-même, le grand poisson qui avale et qui recrache, qui sauve la vie de Jonas. Mais voici certainement le plus grand des miracles du livre. C'est que la population entière de Ninive, cette grande ville méchante, se laisse interpeller par le message de Jonas et se repent. C'est une grande repentance. Une très grande repentance. Donc c'est ça le grand miracle. Notez la qualité de leur repentance. Tout d'abord, elle est immédiate, elle est rapide. Le verset dit qu'on a appris qu'il fallait normalement 3 jours de marche pour faire tout le tour, ou tous les quartiers, ou traverser Ninive. Mais le verset dit, verset 4, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Et verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Il n'a même pas fallu faire les 3 jours de marche, la ville entière. Un jour suffit de ce petit prêche. Et la repentance est là. Verset 5, cette repentance, elle est quand même spirituelle. Le verset dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ça, c'est fort, je trouve. Ce n'est pas juste qu'ils ont cru à Jonas. Mais derrière Jonas, ils reconnaissent quand même la voix du Dieu. Ils crurent à Dieu. Et puis donc, elle est immédiate, elle est spirituelle, elle est publique. Ils ont publié un jeûne et se revêtir de sac, donc c'est quelque chose de visible. Elle est répandue, cette repentance, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Et là, on retrouve les mots-clés ce matin. Les plus grands jusqu'aux plus petits vont vivre cette repentance. Donc le plus grand, c'est le roi lui-même. Il participe à la repentance, il ôte son manteau, il se couvre de sac. Il fait cette publication, ce décret, on va tous, déjà ça commence, les gens commencent à vivre cette repentance, donc lui peut l'officialiser. Il ôte son manteau, il se couvre de sac, je pense que quand on ôte ses habits royaux et quand on se couvre de sac, c'est pour montrer qu'on est petit face à ce grand Dieu. C'est l'attitude contraire de Nebuchadnezzar qui dit « Voilà la grande ville que j'ai bâtie, je suis grand aussi. » Donc ici, le grand roi se fait tout petit dans son attitude. On se couvre de cendres pour montrer qu'on est sale, souillé face à la grande sainteté de Dieu. Donc là, cette attitude-là de ce roi, c'est tout le contraire, effectivement, de l'esprit qui animait le tour de Babel, ces grandes villes. Donc c'est le plus grand jusqu'au plus petit. Et là c'est fort que c'est même jusqu'aux animaux. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point. Cela fait partie des éléments caricaturaux de ce livre, c'est que les animaux sont dans la repentance. C'est un peu particulier. C'est plus la vache qui rit, c'est la vache qui pleure. Désolé. Mais je ne sais pas si les vaches ont compris que ce qui leur arrivait ce jour-là, mais c'est pour montrer à quel point cette repentance est juste plus grande jusqu'au plus petit. C'est tout le monde jusqu'aux animaux. Et puis cette repentance, elle est intense, elle n'est pas feinte. Et le roi dit que les hommes, et qu'ils crient à Dieu avec force. C'est-à-dire, ce n'est pas une petite repentance, mais c'est avec force qu'on crie vers Dieu. Et puis elle est humble, elle dépend un peu de la grâce de Dieu, elle n'exige rien de Dieu, même il dit, verset 9, « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas ?» Donc là encore, ils ne plaident pas forcément leur mérite, même la qualité de leur repentance. Ils sont obligés de se remettre à Dieu, et Dieu, même on ne mérite pas qu'il nous pardonne. Et si, encore une grande humilité. Donc vous voyez, c'est vraiment un grand miracle que cette grande ville manifeste une si grande repentance. C'est presque du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Mais ça arrive parfois qu'il y ait des réveils, des grands réveils où une population entière va se tourner vers Dieu. Il faut savoir que les réveils souvent ne durent pas très longtemps. Des fois c'est quelques semaines, quelques mois, une année. C'est rare. Et souvent, après, les choses redeviennent un peu selon le cœur de l'homme qui oublie Dieu. Mais de temps en temps, au long de l'histoire, on a vu ces grands moments de réveil, de repentance. Et si Ninive, c'est merveilleux. Et puis l'autre aspect du grand miracle, et notre grand miracle, deux miracles en un, c'est que c'est Dieu qui se repent. C'est le mot dans certaines traductions de la Bible. On va en parler maintenant, parler du Dieu qui se repent, c'est un peu bizarre. Nous avons célébré ce matin le Dieu qui ne change pas, le Dieu immuable. Et ça, c'est une qualité essentielle de sa personne. Mais c'est vrai que parfois, la Bible utilise un langage du point de vue de l'homme pour décrire les voies de Dieu. D'ailleurs, quand il s'agit de son ardente colère en verset 9, littéralement, c'est en hébreu, c'est les narines brûlantes de Dieu. Les narines brûlantes de Dieu, c'est particulier. Dieu n'a pas de narines. On parle du bras de Dieu, comme dans un chant, on parle de la main de Dieu. Dieu est esprit dans ce sens. Mais c'est un langage pour nous aider à comprendre. Donc on prend un langage humain pour décrire Dieu. Et puis, il y a aussi le sens du mot se repentir. Littéralement, c'est changer. Donc ici, Dieu, voilà, c'est vrai que du point de vue de l'homme, il revient sur cette décision de détruire Ninive. Il ravise, et encore, c'est une façon de parler. Du point de vue de l'homme, certes, cela représente un changement, une nouvelle direction, une nouvelle relation avec Dieu. Donc voilà, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Bien sûr, sur le plan éternel, Dieu ne change pas, Dieu ne change jamais. Il ne se repent pas, il ne regrette rien, il dit jamais « je me suis trompé ». On apprend dans ce livre que Dieu est complètement souverain sur tout, c'est-à-dire il dirige tout. La tempête qui va rattraper Jonas, le gros poisson qui était là pour l'avaler, l'envoi du prophète, même la préparation des cœurs de Ninive, des historiens disent que ce n'est pas impossible selon les événements du jour, que la population de Ninive était troublée, était peut-être prête à recevoir ce message, parce qu'il y a eu historiquement, il y a eu des famines, il y a eu une éclipse solaire, il y a eu pas mal de troubles autour. Donc, qu'un prophète arrive comme ça avec un message de repentance, ça peut se comprendre qu'ils étaient à l'écoute. Donc, mais là encore, c'est Dieu qui a dirigé tous ces événements. C'est lui qui a préparé les cœurs des Ninivites, c'est lui qui a opéré finalement leur transformation. Et quand on dit que Dieu est immuable, c'est ça qui nous encourage encore ce matin, c'est qu'un aspect immuable de sa personne, c'est lorsque l'homme se repent et cherche en lui la délivrance et le secours, eh bien Dieu, et ça, en cela, il ne change jamais, Dieu répond avec son salut, sa délivrance, il retient son jugement, et ça ne change pas à travers toutes les histoires de la Bible. Peut-être nous devons reconnaître que nous vivons un grand miracle tous les jours. C'est que Dieu ne détruit pas ce monde pour le moment. Il attend, il épargne. Voilà le grand miracle. Et face à cette grande repentance, ce grand miracle de la grande ville de Ninive, le petit prophète Jonas va, lui, avoir une grande réaction. Le mot « grand » arrive encore en chapitre 4, verset 1. Mais on va garder ça pour la semaine prochaine. On va voir la grande réaction de Jonas, comment il a réagi à la grande repentance de la grande ville. Mais déjà, ce chapitre nous interpelle. Tout ce livre nous interpelle, il y a quand même une grande question dans tout ça. C'est que tout le monde s'est repenti dans ce chapitre. Le roi, le petit citoyen, la vache, la brebis. Même Dieu, en quelque sorte, s'est repenti. C'est une autre manière, mais tout le monde se repent. Et la grande question, c'est, et Jonas dans tout ça? Et moi, dans tout ça, il s'était repenti dans un sens pour aller à Ninive, mais est-ce qu'il s'est vraiment repenti de son attitude? Et moi, est-ce que j'ai cette facilité, comme les Ninivites, à me remettre en question, à me placer devant Dieu, à changer de voie quand il faut? Vous savez que Jésus a prêché sur ce texte-là. Quand Jésus a prêché sur un texte, je tremble un peu parce qu'il faut pas rater le sens. Mais Jésus a prêché ce texte des hommes de Ninive. Et voici ce qu'il dit en Matthieu 12, verset 41. Il interpelle son entourage et il dit, vous savez, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce que eux, ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a quelque chose de plus grand que Jonas. Et voilà la grande question. Les Ninivites ont répondu au message de Jonas. Comment allons-nous répondre au message de Jésus, qui lui est bien plus grand que Jonas? Jésus nous a apporté un message bien plus attirant, bien plus chaleureux, bien plus convaincant. Pas juste 40 jours, vous serez détruits. Pas juste bientôt, vous allez en enfer. Jonas a prêché ce message de jugement. Sans amour. Mais Jésus, tout en prêchant un message vrai, en parlant de jugement, il a mis le comble de son amour. Il nous a manifesté tout son amour. Jésus nous a parlé de jugement, certes, mais ce jugement, il l'a pris lui-même sur la croix pour nous en délivrer. Et face à cette croix, ne devrions-nous pas avoir une plus grande facilité à nous repentir, à nous rapprocher de Dieu, à examiner les motivations de notre cœur pour marcher avec lui dans la foi, dans l'obéissance, pour aller là où il nous envoie. Donc que ces traits disproportionnés qu'on trouve dans ce livre nous interpellent encore ce matin. Si Dieu veut atteindre une ville grande dans sa taille et grande dans sa méchanceté comme Ninive, ne veut-il pas atteindre Toulouse et nous utiliser pour ce faire? Si Dieu vous a placé à Toulouse, c'est vrai qu'il y a des bouchons, c'est vrai qu'il y a la pollution, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais il y a une attitude à cultiver envers un monde perdu autour de nous. Si Dieu utilise un si petit message fait sans cœur, ne peut-il pas utiliser vos paroles? Peut-être plus que quatre, un verset de la Bible, un mot d'encouragement. Il peut. Et si de grands méchants païens se repentent, est-ce qu'on ne devrait pas trouver que les chrétiens, les fréquenteurs d'église, devaient être plus doués encore à la repentance? Que les Ninivites ne soient pas ceux qui nous condamnent, mais que nous puissions les imiter dans notre repentance. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce livre, ces détails qui nous captivent. Au-delà de ça, nous voulons pouvoir examiner nos cœurs. Tu es fort pour montrer les défauts de notre caractère, de nos attitudes. Ta parole fait ce travail. Et nous avons vu ce matin certains traits exagérés, agrandis, cette grande méchanceté, mais aussi cette grande repentance. Et nous voulons pouvoir aussi reconnaître que des fois, nous avons vécu loin de toi. Nous nous sommes crus divinement grands, alors que c'est toi seul qui es divinement grand. Et ce matin, nous voulons nous humilier devant toi, saisir le salut qui est en Jésus-Christ, être prompt à revenir à lui, et saisir le message de la délivrance. En cela, tu ne changes pas et nous te remercions que ce matin encore, tu tends ta grâce, tu veux nous sauver, nous délivrer, nous garder près de toi. Je te prie, s'il y a quelqu'un ici qui se reconnaît dans une méchanceté de cœur, une violence, une désobéissance vis-à-vis de toi, que cette personne soit prompte à venir, à saisir le message de la bonne nouvelle, que Christ nous délivre, nous aime, a donné sa vie pour nous. Nous te louons au nom de Jésus. Amen.